Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Vous avez tous entendu l'expression « un enfant de la balle ». Un enfant de la balle, c'est un enfant qui est dans le monde du spectacle, dont le père et parfois le grand-père étaient déjà dans le monde du spectacle. À notre époque, l'exemple le plus célèbre, c'est sûrement Pierre Brasseur, Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, et la famille de Seigné avec Louis Seigné, doyen de la Comédie Française, François Seigné, sociétaire de la Comédie Française, Mathilde et Emmanuel Seigné, les nièces de Françoise, qui chacune poursuivent une carrière aussi bien au cinéma qu'à la télévision ou au théâtre. Mais venons-en à l'expression « enfant de la balle ». Ça ne vient pas du spectacle, ça vient des jeux de paume. Dans les jeux de paume, il y avait souvent des enfants, les enfants des propriétaires, qui renvoyaient la balle et qui, sachant très bien comment faire, le faisaient de façon fort adroite. Donc, d'où l'expression « enfant de la balle ». Et comme beaucoup de troupes de théâtre se sont installées dans d'anciens jeux de paume, c'est passé du monde du jeu de paume au monde du spectacle. Mais venons-en à la pièce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est une pièce de Corneille, Polyeucte, qu'il a intitulée lui-même « Tragédie chrétienne ». Alors, ce n'est pas par hasard que cette pièce a été créée en 1643, c'est 45 ans exactement après la promulgation de l'édit de Nantes par Henri IV, permettant aux protestants de pratiquer leur culte dans certaines villes. Et c'est 42 ans avant, mais ça Corneille ne pouvait pas le savoir, avant la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Notons que la pièce est dédiée à la reine régente Anne d'Autriche, puisque Louis XIV, à l'époque, en 1643, était encore mineur. Alors, Polyeucte, ce n'est pas la première pièce de Corneille, déjà célèbre après le Cid, après Horace, après Cinna. Polyeucte, au passage, je vous signale que deux opéras existent à partir de ce sujet-là, un de Donizetti et l'autre de Charles Gounod, ainsi que une ouverture de Paul Dukas. Mais revenons-en à la pièce. Alors, Polyeucte, le martyr dont il est question dans la pièce, a effectivement existé, mais on ne sait pratiquement rien sur lui. Donc Corneille a inventé la plupart des péripéties qui jalonnent sa tragédie. Alors, ça commence, ça se passe en Arménie, pardon, j'ai oublié de le préciser. Polyeucte est un gentilhomme arménien. Il a épousé la fille du gouverneur qui est sous les ordres de Rome. Et on apprend très vite qu'il s'est converti au christianisme. Voici un extrait de la première scène du premier acte. Polyeucte est avec Néarque, un ami. Néarque, quoi ? Vous arrêtez au songe d'une femme ? De si faibles sujets troublent cette grande âme et ce cœur, tant de fois dans la guerre éprouvé, s'alarme d'un péril qu'une femme a rêvé. Polyeucte, je sais ce qu'est un songe et le peu de croyance qu'un homme doit donner à son extravagance, qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit forme de vains objets que le réveil détruit. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. Vous ignorez quel droit elle a sur toute l'âme. Quand, après un long temps qu'elle a su nous charmer, les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer, Pauline, sans raison, dans la douleur plongée, craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée. Elle oppose ses pleurs au dessin que je fais et tâche à m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte et je cède à ses larmes. Elle me fait pitié sans me donner d'alarme et mon cœur, attendri sans être intimidé, n'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion n'est rare qu'est-elle si pressante qu'il faille être insensible au soupir d'une amante. Par un peu de remise, épargnons son ennui pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'hui. Néa, qu'avez-vous cependant une pleine assurance d'avoir assez de vie ou de persévérance? Et Dieu, qui tient votre âme et vos jours dans sa main, promet-il à vos voeux de le pouvoir demain? Il est toujours tout juste et tout bon, mais sa grâce ne descend pas toujours avec même efficace. Après certains moments que perdent nos longueurs, elle quitte ses traits qui pénètrent les cœurs, le nom s'endurcit, la repousse, l'égare, le bras qu'il a versé en devient plus avare, et cette sainte ardeur qui doit porter au bien tremble plus rarement, ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressait de courir au baptême, languissante déjà, cesse d'être la même. Et pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouïr, sa flamme se dissipe et va s'évanouir. Poliette, vous me connaissez mal. Ces pleurs que je regarde avec un œil d'époux me laissent dans le cœur, aussi chrétien que vous. Mais pour en recevoir le sacré caractère qui lave nos forfaits dans une eau salutaire et qui, purgeant notre âme et dessillant nos yeux, nous rend le premier droit que nous avions aux cieux, bien que je le préfère aux grandeurs d'un empire comme le bien suprême et le seul où j'aspire, je crois, pour satisfaire un juste et saint amour, pouvoir un peu remettre et différer d'un jour. Ainsi, du genre humain, l'ennemi vous abuse. Ce qui ne peut de force, il entreprend de ruse. Jaloux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler, quand il ne les peut rompre, il pousse à reculer. D'obstacle sur obstacle, il va troubler le vôtre, aujourd'hui par des pleurs, chaque jour, par quelque autre, et ce songe, rempli de noires visions, n'est que le coup d'essai de ses illusions. Il met tout en usage et prière et menace, il attaque toujours et jamais ne se lasse. Il croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu, et que ce qu'on diffère est à demi rompu. Rompez ses premiers coups, laissez pleurer Pauline. Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, qui regarde en arrière et douteux en son choix, lorsque sa voix l'appelle, écoute une autre voix. Poliette, pour se donner à lui, faut-il n'aimer personne? Nous pouvons tout aimer. Il le souffre, il accepte. Mais à vous dire tout, ce Seigneur des Seigneurs veut le premier amour et les premiers honneurs. Comme rien n'est égal à sa grandeur suprême, il ne faut rien aimer qu'après lui, qu'en lui-même, négligé pour lui plaire, et bien, et femme, et rang, exposé pour sa gloire, et versé tout son sang. Mais que vous êtes loin de cette ardeur parfaite qui vous est nécessaire et que je vous souhaite. Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux. Poliette, aujourd'hui, qu'on nous hait en tout lieu, qu'on croit servir l'État quand on nous persécute, qu'au plus âpre tourment un chrétien est en butte, comment pourrez-vous surmonter les douleurs si vous ne pouvez pas résister à des pleurs? Vous ne m'étonnez point. La pitié qui me blesse, c'est bien au plus grand cœur et n'a point de faiblesse. Sur mes pareils néarques, Un bel œil est bien fort, tel craint de le fâcher, qui ne craint pas la mort, et s'il faut affronter les plus cruels supplices, y trouver des appâts et faire mes délices. Votre Dieu, que je n'ose encore nommer le mien, m'en donnera la force en me faisant chrétien. Hâtez-vous donc de l'être. Oui, j'y cours, Chanéar, que je brûle d'emporter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige et ne peut consentir, dans ce songe la trouble à me laisser sortir. Votre retour pour elle en aura plus de charme. Dans une heure au plus tard, vous essuierez ses larmes. Et l'heure de vous revoir lui semblera plus doux. Plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allez, on nous attend. Apaisez donc sa crainte et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient, fuyez, je ne puis, il le faut. Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, qui le trouve aisément, qui blesse par la vue et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue. Fuyons, puisqu'il le faut. Adieu, Pauline. Adieu, dans une heure plus tard, je reviens en ces lieux. Pauline, quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? Y va-t-il de la vie? Il y va de bien plus. Quel est donc ce secret? Vous le saurez un jour, je vous quitte à regret, mais enfin il le faut. Pauline, vous m'aimez? Je vous aime. Le ciel m'en soit témoin, 100 fois plus que moi-même, mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir. Vous avez des secrets que je ne puis avoir. Quelle preuve d'amour! Au nom de l'hyménée, donnez à mes soupirs cette seule journée. Pauline, est un songe, je vous fais peur. Pauline, ces présages sont vains, je le sais, mais enfin, je vous aime et je crains. Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu. Vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter, et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister. Que Polyète, seigneur arménien, a décidé de se convertir au christianisme. Par la suite, on va découvrir un peu mieux ce qui s'est passé après et avant. En fait, Pauline, fille du gouverneur Félix, était amoureuse d'un chevalier romain, sévère, son père a préféré, par opportunisme politique, la marier avec Polyecte, mais entre-temps, Sévère a pris, si j'ose dire, du galon auprès de l'empereur Décie, et il revient et il va retrouver à nouveau Pauline. Et on apprendra peu à peu que, non content de s'être converti, d'être devenu chrétien, Polyecte a commis le pire des crimes pour l'Empire romain. Il a détruit des idoles qu'il considère comme des idoles païennes. Et lorsqu'il revient, voici l'entrevue entre Polyecte et Pauline. Polyecte, à la suite de son acte, a été arrêté. Polyecte, madame, quel dessein vous fait me demander ? Est-ce pour me combattre ou pour me seconder ? Apportez-vous ici la haine ou l'amitié comme mon ennemi ou ma chère moitié ? Pauline, vous n'avez point ici d'ennemi que vous-même. Seul, vous vous haïssez lorsque chacun vous aime. Seul, vous exécutez tout ce que j'ai rêvé. Ne veuillez pas vous perdre et vous êtes sauvé. À quelque extrémité que votre crime passe, vous êtes innocent et vous vous faites grâce. Daignez considérer le sang dont vous sortez, vos grandes actions, vos rares qualités, chéri de tout le peuple, estimé chez le prince gendre du gouverneur de toute la province. Je ne vous compte à rien le nom de mon époux. C'est un bonheur pour moi qui n'est pas grand pour vous. Mais après vos exploits, après votre naissance, après votre pouvoir, voyez notre espérance et n'abandonnez pas à la main du bourreau ce qu'à nos justes vœux promet un sort si beau. Polyecte, je considère plus. Je sais mes avantages et l'espoir que sur eux forment les grands courages. Ils n'aspirent enfin qu'à des biens passagers que troublent les soucis, que suivent les dangers. La mort nous les ravit, la fortune s'en joue. Aujourd'hui dans le trône et demain dans la boue. Et leur plus haut éclat fait tant de mécontents que peu de vos Césars en ont joué longtemps. J'ai de l'ambition, mais plus noble et plus belle. Cette grandeur périt, j'en veux une, immortelle. Un bonheur assuré, sans mesure et sans fin, au-dessus de l'envie, au-dessus du destin. Est-ce trop l'acheter que d'une triste vie qui tantôt, qui soudain me peut être ravie, qui me fait jouir que d'un instant qui fuit et ne peut m'assurer de celui qui le suit. Pauline, voilà de vos chrétiens les ridicules songes. Voilà jusqu'à quel point vous charment leurs mensonges. Tout votre sang est peu pour un bonheur si doux, mais pour en disposer ce sang est-il à vous ? Vous n'avez pas la vie ainsi qu'un héritage. Le jour qui vous la donne, en même temps l'engage, vous la devez au prince, au public, à l'État. Je la voudrais pour eux perdre dans un combat. Je sais qu'elle en est l'air et qu'elle en est la gloire. Des aïeux de Décie en vantent la mémoire et ce nom, précieux encore à vos Romains, au bout de 600 ans, lui met l'Empire en main. Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne. Mais je la dois bien plus au Dieu qui me la donne. Si mourir pour son prince est un illustre sort, quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort ? Quel Dieu, tout beau, Pauline ? Il entend vos paroles. Et ce n'est pas un Dieu comme vos dieux frivoles, insensibles et sourds, impuissants, mutilés de bois, de marbre et d'or, comme vous le voulez. C'est le Dieu des chrétiens, c'est le mien, c'est le vôtre, et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre. Pauline, adorez-le dans l'âme et n'en témoignez rien. Que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien, ne feignez qu'un moment, laissez partir ces vers et donnez lieu d'agir aux bontés de mon Père. Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir. Il m'ôte des périls que j'aurais pu courir et sans me laisser lieu de tourner en arrière, sa faveur ma couronne, entrant dans la carrière. Du premier coup de vent, il me conduit au port et sortant du baptême, il m'envoie à la mort. Si vous pouviez comprendre, et le peu qu'est la vie, et de quelle douceur cette mort est suivie. Mais que sert de parler de ces trésors cachés à des esprits que Dieu n'a pas encore touchés? Cruel, car il est temps que ma douleur éclate et qu'un juste reproche accable une âme ingrate. Est-ce là ce beau feu, sont cela tes serments? Témoignes-tu pour moi les moindres sentiments? Je ne te parlais point de l'état déplorable où ta mort va laisser ta femme inconsolable. Je croyais que l'amour t'en parlerait assez, et je ne voulais pas de sentiments forcés. Mais cet amour, si ferme et si bien mérité que tu m'avais promise et que je t'ai porté, quand tu me veux quitter, quand tu me fais mourir, te peut-elle arracher une larme, un soupir? Tu me quittes, ingrat, et le fais avec joie. Tu ne la caches pas, tu veux que je la voie, et ton cœur, insensible à ces tristes appâts, se figure un bonheur où je ne serai pas. C'est donc là le dégoût qu'importe d'Hyménée. Je te suis, odieuse, après m'être donnée, hélas. Que cet hélas a de peine à sortir. Encore s'y commençait un heureux repentir, que tout pour ce qu'il est, j'y trouverai de charme. Mais courage, il s'émeut, je vois couler des larmes. J'en verse, et plus à Dieu qu'à force d'en verser, ce cœur trop endurci se put enfin percer. Le déplorable état où je vous abandonne est bien digne des pleurs que mon amour vous donne. Et si l'on peut au ciel sentir quelque douleur, j'y pleurerai pour vous l'excès de vos malheurs. Mais si, dans ce séjour de gloire et de lumière, ce Dieu, tout juste et bon, peut souffrir ma prière, s'il y daigne écouter un conjugal amour, sur votre aveuglement, il répandra le jour. Seigneur, de vos bontés, il faut que je l'obtienne. Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne. Avec trop de mérite, il vous plut la former pour ne pas vous connaître et ne vous pas aimer. Pourvez les enfers, esclaves infortunés, et sous leur triste joug mourir comme elle est née. Que dis-tu, malheureux? Qu'oses-tu souhaiter? Ce que de tout mon sang je voudrais acheter, que plutôt... C'est en vain qu'on se met en défense. Ce Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense. Ce bienheureux moment n'est pas encore venu, il viendra. Mais le temps ne m'en est pas connu. Pauline, quittez cette chimère et m'aimez. Polyecte, je vous aime. Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même. Pauline, au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas. Polyecte, au nom de cet amour, daignez suivre mes pas. C'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire. C'est peu d'aller au ciel. Je vous y veux conduire. Imagination, céleste vérité, étrange aveuglement, éternelle clarté. Tu préfères la mort à l'amour de Pauline. Vous préférez le monde à la bonté divine. Va, cruel, va mourir, tu ne m'aimas jamais. Polyecte, vivez heureuse au monde et me laissez en paix. Oui, je t'y vais laisser. Ne t'en mets plus en peine, je vais. Alors, la pièce va s'achever de façon un peu étrange, mais après tout, Polyecte est condamné à mort. Il va être exécuté sur ordre de son beau-père, Félix, après son ami Néarque. Et puis, à la fin de la pièce, c'est une succession de conversions aussi brutales qu'inexplicables. Pauline embrasse la foi chrétienne. Félix, le beau-père de Polyecte, se convertit également. Et Sévère, qui est, je le rappelle, l'envoyé de l'empereur Décie, conclut en disant que finalement, dans un empire, il est bon que chacun puisse vivre la foi qui est la sienne. Et ce message, peut-être toujours actuel, je ne sais pas, ce message de Corneille en 1643 sonne étrangement quand on sait que quelques années plus tard, le culte protestant va à nouveau être persécuté en France. Je vous remercie de m'avoir écouté.